おかしい、おかしい。
Je vous invite à vous rappeler dans l'émission Dialogue entre couples, les chiens des gens que nous ne sommes pas qu'à manger à la présentation.
Bonsoir. L'ONG de défense des droits de l'homme, AJADO, dénonce des violations de droits de l'homme par l'Agence nationale de renseignement, ANR. En quoi consistent ces violations? Les forces de l'ordre congolaises en général respectent-elles les droits de l'homme? C'est le sujet de cette émission Dialogue entre Congolais. Vous nous avez écrit, merci pour vos questions et réactions. On y reviendra dans cette émission. Nous avons comme invité ce soir Gaston Moussemena. Il est député national PCRD. Il a une expérience dans les services de renseignement. Jacques Joly, vice-président de la Commission défense et sécurité au Sénat et secrétaire national du MNC chargé de la défense, sécurité et décentralisation. Nous devrions recevoir aussi Jean-Claude Katindé, président de l'ONG Association africaine de défense des droits de l'homme à AJADO. Ce dernier vient de se désister juste avant notre entrée dans ce studio. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
L'ONG de défense des droits de l'homme à AJADO dénonce des violations des droits de l'homme par l'ANR. En quoi consistent ces violations? Avant d'en débattre, puisque les cas soulevés par cette ONG posent le problème du respect des droits de l'homme en RDC, selon le directeur adjoint du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, il salue les avancées dans certains domaines, comme la lutte contre les violences sexuelles. Mais d'après Louis-Marie Boaka, en général, des cas de violation des droits de l'homme se commettent encore, notamment à l'est du pays. Je vous propose cet entretien que nous avons eu avec le directeur adjoint du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'était juste avant d'entrer dans ce studio. Louis-Marie Boaka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez l'habitude, au niveau de la MONUC, de publier des rapports. Alors, d'après le dernier rapport sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, comment se portent les droits de l'homme en RDC?
C'est une question très vaste. Il y a des avancées significatives dans certains domaines. Je peux parler de quelques pas sur la lutte contre l'impunité liée aux violences sexuelles. Nous nous cessons d'enregistrer, de constater, d'apprécier la décision des cours et tribunaux qui punissent, qui condamnent à des peines de dernière rigueur des agents des forces de l'ordre, les militaires, les policiers, qui sont coupables de viols ou de violences sexuelles. Ça, c'est un pas que nous encourageons. Mais de notre côté, nous continuons d'enregistrer des cas de tuerie, des cas d'exécution arbitraire.
Où exactement? Dans ton pays ou dans certains coins particuliers, à l'Est peut-être ou à Kinshasa?
Dans certains coins du pays qui sont indiqués dans le rapport de la section, dans des zones souvent à tension. Je veux parler de l'Ituri, je veux parler du nord du Sud-Kivu, et quelques cas aussi dans d'autres parties du pays, que nous rapportons tous ces cas dans les rapports pour que les autorités puissent en prendre connaissance et prendre des mesures appropriées.
Dans les vieux rapports de la MONUC, il a été fait état des forces de l'ordre pointées comme étant les principaux responsables de violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Est-ce que la situation a changé positivement?
Je ne veux pas dire que la situation a changé positivement. Nous avons essayé de mettre en place un mécanisme devant nous aider à gérer ces cas qui impliquent les agents de force de l'ordre. Je veux dire ici, nous, je veux parler du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, avec le bureau des droits de l'homme, il y a eu des décisions qui ont été prises par le ministre de la Défense et par l'inspecteur général de la police nationale congolaise qui instituent, ce sont des décisions qui demandent au commandant militaire ou au commandant de police au niveau des provinces d'instituer des comités de suivi des cas de violation des droits de l'homme avec notre bureau. Et ces comités fonctionnent dans certaines provinces pour les comités des FRDC et la MONUC sur 11 provinces de l'heure. Je crois que 8 provinces ont déjà créé ces comités. Ces comités se réunissent une fois par mois pour examiner tous les cas de violation des droits de l'homme et les auditeurs militaires sont membres de ces comités et nous suivons tous les cas. Et nous avons, il n'y a pas longtemps, fait l'évaluation des cas évoqués dans ces comités et l'évaluation s'avère positive d'avancer dans le processus de l'édification d'un état de droit.
Merci beaucoup, Louis-Marie Boaka.
Je vous en prie.
Jacques Joly, vous avez suivi cet état des lieux qui vient d'être en fait énoncé par
lui, Marie Boaka, du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, votre première réaction?
Merci beaucoup. Je crois que, au-delà de termes diplomatiques utilisés par le responsable des droits de l'homme de votre structure, de la MONUC, il se dégage clairement que la situation des droits de l'homme dans notre pays reste préoccupante. Rappelez-vous que dans notre constitution du 18 février 2006, un des éléments fondamentaux de cette constitution, c'est l'instauration d'un état de droit démocratique. Or, il s'est fait que la situation des droits de l'homme reste, comme je l'ai dit, préoccupante. Notre ami a parlé des tueries, des exécutions sommaires. Je voudrais vous parler des arrestations arbitraires. Moi-même, j'ai adressé une question écrite au ministre de l'Intérieur et celui de la Défense sur des arrestations des officiers, des policiers qui sont faites dans une démarche totalement illégale, donc des détentions, des arrestations arbitraires, des détentions illégales, l'existence des cachots pirates. Il y a des gens qui ont fait 11 mois de détention dans des structures totalement innommées. Il y a des gens qui sont détenus au-delà du temps prévu par la loi.
C'est quoi le temps prévu par la loi?
Mais un OPJ ne peut garder un citoyen que pendant 48 heures. Mais vous savez qu'il y a des détentions dans les centres de cachot de 11 mois. Nous avons connu même des cas de mort. Et le ministère de l'Intérieur et de la Défense ont nié, n'est-ce pas, l'existence de ces personnes arrêtées jusqu'au moment où, n'est-ce pas, avec le concours de la MONUC, nous sommes parvenus à avoir des cas de mort. Et finalement, on les a transférés à Makala. Et à Makala, aujourd'hui, on distingue des gens qui sont sans dossier, pour lesquels les familles n'y accèdent pas. Donc, la situation reste préoccupante. Il y a encore, maintenant, il s'opère des arrestations. On arrête non pas simplement le suspect, on arrête le femme à la place de mari et des femmes qui allaitent. Je prends les cas des officiers qui sont soi-disant recherchés, dont on arrête les enfants. Donc, la constitution qui prévoit un cadre, qui prévoit pratiquement la moitié ou ce n'est pas le tiers de ces dispositions pour la défense des droits de l'homme, et bien cette constitution est bafouée. Et aujourd'hui, rendez-vous au centre de sanctions de Makala, vous allez trouver cette situation totalement inadmissible. Donc, je crois que nous aurons l'opportunité d'évoquer ces cas et d'inviter finalement les autorités à respecter le principe de la Constitution en ce qui concerne la forme et le fond de lois aussi bien constitutionnelles que les lois de procédure qui sont prévues, parce que la forme importe plus. Il ne faut pas abuser des assertions telles que l'atteinte à la sûreté de l'État. Vos collègues, rappelez-vous, de Global Télévision, qui ont été arrêtés, oui, parce qu'ils ont fait passer l'interview des mois d'Antemi. Donc, il faudra que nous tous, gouverneurs et gouverneurs, nous puissions comprendre qu'on ne peut bâtir un État susceptible de se développer que s'il y a la bonne gouvernance, s'il y a le droit de l'homme, s'il y a, n'est-ce pas, un État de droit. Et le chef de l'État, je crois que lui-même, dans son discours d'investiture, a basé sa démarche sur cette trilogie. Il faudra qu'on s'y mette et nous allons en parler aujourd'hui.
Merci, Jacques Joly. Nous avons aussi le député national, Gaston Moussemena. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Ça fait longtemps qu'on vous appuie dans cette émission. Mais pour répondre directement à la question par rapport à la situation que Jacques Joly qualifie de situation préoccupante de droits de l'homme en République démocratique du Congo, hein, il a étalé là-dedans des exemples, des détenus qui sont en fait détenus, excusez-moi la répétition, en plus de 48 heures et arrestation arbitraire. Comment vous expliquez cela?
Bien. J'aimerais d'abord revenir à l'état des lieux par Louis-Marie, je crois, c'est son nom.
Louis-Marie Bocard.
Je crois que si tout le monde l'a bien suivi, notre ami, peut-être sans vouloir le dire clairement, il a essayé de vous démontrer que la situation a sensiblement changé, que la situation s'est fortement améliorée. Parce qu'il fallait le suivre, il a cité le cas du ministre de l'Intérieur qui intervenait très régulièrement. Vous comprenez que nous venons de quelque part, mais que depuis que les institutions légitimes sont en place, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans le cadre du respect des droits de l'homme. Surtout que, avec les élections que nous avons tous connues, il y a maintenant ce que vous appelez toute la représentation nationale, la représentation au niveau provincial. Donc, les députés qui descendent régulièrement dans leur coin, dans leur circonscription électorale, voulais-je dire, et qui reviennent chaque fois avec les rapports. Donc, ce sont des témoins gênants, vous devez comprendre ça, et nous tous, élus du peuple, qu'est-ce que nous visons? Le bien-être de la population, et parmi les priorités, nous veillons à ce que la population ne soit plus jamais tracassée. Cette population a été tracassée pendant la période des guerres, des rébellions, que tout le monde connaît, mais aujourd'hui, nous tous,
aujourd'hui, il n'y a plus de tracasserie.
Non, je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'il n'y a plus de tracasserie, mais nous veillons tous à cela, nous les élus. Et la population qui est en contact permanent avec ces élus dénonce chaque fois des cas, et nous, en tant qu'élus, nous avons la possibilité de faire parvenir ces revendications auprès de qui de droit et obtenir rapidement
une
réparation. Ou le gouvernement
et
les élus sont en place. Et nous le faisons tous, que ce soit les députés provinciaux, les députés nationaux et même les sénateurs. Et même les sénateurs, ils le font.
Et vous pensez que la situation change?
Je crois qu'il faut être honnête pour reconnaître qu'au regard de cet environnement, la situation s'est fortement améliorée. Et aller suivre lui-même, vous avez pu comprendre qu'il a même cité des cas. Il a essayé de parler des exécutions sommaires. Je crois que vous vous êtes permis de lui poser une question. C'est lui qui l'a interviewé. Il n'a pas cité. Ce sont des choses que déjà affirme sans en avoir des preuves. Même les arrestations arbitraires dont on parle, en quoi ces arrestations sont arbitraires, peut-être que lors du débat on en parlera, vous n'avez pas tous les détails.
Il y a des gens qui sont dans les cachots illégaux et des gens qui sont à Makala, qui sont sans dossier.
C'est que lui croit qu'ils sont à Makala sans dossier, mais vous savez que le ministre Moutombo Bakafasenda s'est rendu dernièrement dans les prisons pour faire sortir celle qui ont été mis là-bas par certains magistrats. Bon, je ne peux pas qualifier les magistrats, c'est notre magistrature qui a ses faiblesses. Mais en tout cas, le ministre, donc membre du gouvernement de notre pays, a fait des efforts considérables pour enlever des prisons les gens qui ont été placés sans que toutes les normes ne soient respectées. Donc ce sont là, je crois, en toute honnêteté, les efforts qui ont été largement fournis par les institutions de la République pour que les droits de l'homme soient respectés.
Donc la situation n'est pas préoccupante, comme le dit Jacques.
De toute manière, restons honnêtes, il est vrai qu'il y a encore des problèmes et il y en aura toujours, comme partout au pays, mais nous rechercherons toujours une certaine amélioration de la situation. Je ne peux pas confirmer qu'il n'y a plus de problème. Ça, non, je ne le dirai pas, je suis élu du peuple, mais je sais.
Il y en a quand même.
Nous militons tous pour que cette situation s'améliore davantage.
Merci, Gaston Moussé-Mena. Pour revenir au communiqué de l'agence, plutôt de l'Azado, qui n'a pas su s'assumer, ça je le dis, parce que l'invité de l'Azado s'est désisté juste avant le début de cette émission. L'Azado publie un communiqué dans lequel il accuse l'ANR d'exceller dans les violations des droits de l'homme. Et là, il cite le cas de Francis Boukassa, comptable du parquet général de la République à Kinshasa, arrêté le 8 octobre 2008 à son bureau. Il cite aussi le cas de M. Pierre Ndézé, attaché de presse du gouverneur de la province du Nord Kivu. Et toujours dans le même communiqué, l'Azado demande au président de la République, notamment, d'ordonner des enquêtes sur les pratiques de l'ANR et à l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement de faire cesser les arrestations et détentions arbitraires que les agents de l'ANR opèrent. Commentaire avec vous, Jacques Joly.
Bon, sans insister sur les cas qu'il cite, moi je parle sur le plan du principe. Heureusement, le collègue Moussemene reconnaît qu'il y a beaucoup de choses, s'il y a peut-être des avancées, il y a des choses qui restent encore à corriger. Mais je voudrais lui dire que le cas que j'ai cite sont des cas qu'on peut vérifier. Moi-même, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense qui ont reconnu trois cas, mais avec la liste que nous avons élaborée avec le service de la MONUC et l'auditeur général, on est arrivé à plus ou moins 44 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale parce que ces arrestations ne sont pas reconnues ou connues par l'auditorat général. Donc ces gens étaient gardés dans l'illégalité la plus totale. Et les problèmes de comité des droits de l'homme qu'on parle, c'est au niveau le plus bas. Mais ces graves violations dont on dénonce, ça s'est fait au niveau le plus haut, au niveau de l'inspecteur général de la police qui a reconnu, n'est-ce pas, détenir ces personnes au nom d'un prétendu coup d'État. Le coup d'État, ici, on le découvre chaque jour. Rappelez-vous le complot de la Pentecôte. Ces gens ont fait 4 ans de détention sans être jugés. Donc, rappelez-vous le coup d'État d'Éric Lengue. Nous attendons jusqu'aujourd'hui le poursuite. Rappelez-vous l'état d'arrestation de Mokia, qui est détenu politique. Tout cela, ce sont deux choses que nous devons dénoncer, même si par ailleurs, le processus doit être continu. Mais revenons à l'ANR. La problématique de l'ANR, c'est d'abord la problématique de la réforme de l'ensemble du système de sécurité de notre pays.
Est-ce que ce n'est pas achevé, ce processus?
Ça n'a même pas encore commencé. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'ANR, cette structure est toujours régie par un décret loi 003-203. Et ce décret loi, son article 2, place l'ANR toujours sous l'autorité du président de la République. Or, le régime a changé. Nous ne sommes plus dans un régime de type présidentialiste. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le chef de l'État est irresponsable aujourd'hui politiquement. Donc, l'ANR doit désormais dépendre sur le plan des textes d'un ministre pour nous permettre à nous, députés et sénateurs, d'interpeller le ministre éventuellement lorsqu'il y a des violations comme celles qui sont ces dossiers.
Et là, vous dites que c'est la Constitution qui le dit.
La Constitution, à son article 91, met les services de sécurité à la disposition du gouvernement. Or, les textes organisant l'ANR continuent à mettre ses services au-dessus, n'est-ce pas, du gouvernement et dépendent directement de la présidence de la République. Ce qui est une anomalie grave dans l'ensemble de notre architecture politico-institutionnelle.
Votre réaction, Gaston Moussemena, juste pour rappeler, je suis député national PPRD, vous avez une expérience dans les services de renseignement.
Absolument. C'est-à-dire que je voulais réagir un tout petit peu à mon collègue, mais je crois qu'il a donné lui-même la réponse. C'est un problème de réforme qui sera peut-être programmé d'ici là. Mais à ce jour,
qui n'a même pas commencé,
qui n'a pas encore commencé, nous sommes des hommes d'État, nous devons rester légalistes, reconnaître à l'ANR ses attributions telles que reconnues par la Constitution. Nous ne pouvons pas faire autrement à ce stade. L'ANR fait son travail. J'aimerais juste vous rappeler un tout petit peu, parce qu'il y a toujours une confusion avec les services de sécurité. L'armée assure la protection du territoire, l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État. La police assure la protection des personnes et de leurs biens. Et les services de sécurité, dont l'ANR, assure la protection du régime et des institutions légalement établies.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire,
cette précision, c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est pour vous édifier. Ouais. Il a fait déjà la Constitution, ouais. Les choses sont encore telles quelles. C'est-à-dire que les services de renseignement assurent la protection du pouvoir, du régime et des institutions légalement établies. C'est déjà une chose. Il y a une réforme qui est projetée, et je crois que mon collègue vous l'a dit, mais à ce stade, j'aimerais qu'il comprenne que ces institutions fonctionnent dans ces conditions-là. Au regard de la nouvelle constitution, bien sûr, pour que les droits de l'homme soient respectés.
Mais
j'ai des cas concrets.
Oui,
vous avez posé des questions concrètes.
Vous allez y arriver. Mais je note quand même dans ce que vous avez dit que vous avez rejoint un peu Jacques Joly en disant qu'au niveau de la réforme
sécuritaire,
le travail est
à faire. Oui, nous préparons tous. Non, ce qu'il a dit est vrai. C'est pourquoi je ne voulais même pas réagir. Parce que lui-même comprend, il s'y connaît.
Oui,
il n'est pas novice, vous devez le savoir.
Vous allez dire maintenant,
il connaît.
Concret, parce que vous,
donc, voyez, ouais. Vous avez parlé des cas du communiqué de l'Azado,
ouais.
Qui acquise l'ANR. Il parle d'un cas d'un certain Patrick Bukassa.
Francis Bukassa.
Ouais. Et je crois que vous avez bien lu les communiqués. Qui est Francis Bukassa, comptable du procureur général de la République? Vous savez que, quelle que soit la situation, quel que soit le statut de l'ANR, l'ANR dépend du parquet. Ce sont des OPJ qui opèrent là-bas, mais le parquet a toujours un mot à dire. Vous pensez que le procureur général de la République, peut-être je vais exagérer, qui est le garant de la justice un peu ici chez nous, il peut accepter que ces auxiliaires prennent son collaborateur sans son aval? Soyons sérieux, monsieur. C'est le il travaille auprès, dans les cabinets du procureur général de la République, qui accepte qu'on extrait, qu'on prenne son collaborateur et qu'on fasse des enquêtes sur lui. Alors quand même sérieux, Lazado, c'est peut-être son travail, on comprend, mais celui qui est au sommet de la justice, c'est celui-là qui autorise, qui accepte, qui permet, il doit avoir des raisons fondamentales.
Peut-être
vous comprenez.
Et peut-être justement, Pourquoi, rapidement.
Ils ont parlé du cas d'un certain PNDZ qui était collaborateur du gouvernement. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que ce type a fait. Il y a une rumeur qui a circulé à un certain moment qui est le chef de l'État. Il allait vers Saké et il a été au Nord Kivu pendant sa visite et qu'il a été abattu. Il a déclaré ça à, je crois, à la radio, à la Voix de l'Amérique, quelque chose comme ça, ce monsieur-là. Vous vous rendez compte que ce monsieur, il se crut très malin pour déstabiliser les institutions. Je me suis permis ici de vous dire le rôle de l'ANR pour que vous compreniez la suite. Voilà un homme comme ça, collaborateur du gouverneur, qui se permettait à tout moment d'alimenter les CNDP par toutes les informations du gouvernement.
Mais
vous vous rendez compte,
mais excusez-moi,
si vous tentez de vouloir déstabiliser, vous
excusez-moi, Gaston Moussénéna, lorsqu'on lit, on ne va pas trop s'attarder, évidemment.
Je vous donne les détails pour que vous compreniez.
C'est juste sur ce détail.
Hein. Ils n'en ont pas, peut-être.
C'est juste sur le détail. Mais quand je lis le même communiqué de Lazado, ce qu'il dénonce, ce n'est pas l'arrestation de Pierre Ndézé, mais c'est plutôt le fait que, je cite d'ailleurs, que Pierre Ndézé se trouve dans une cellule que M. Francis Bokassa est privé de toute visite. C'est ça que dénonce Lazado.
C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'ils ont vérifié, parce que je vous confirme qu'à ce moment, le monsieur ne se trouve même pas à l'ANR. Il avait déjà été transféré au parquet. C'est ce que Lazado n'est quand même pas un effort. L'ANR, c'est un service public. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de créer l'ANR pour rien. C'est l'esprit que les gens avaient avant. Mais c'est un service public.
Ouais.
On peut s'y rendre et vérifier toutes les informations.
Ouais.
Je voulais un peu vous donner des tas sur les
autres. Parce qu'on n'a pas tout le temps sur l'ANR.
Okay.
Peut-être une dernière question avant de faire réagir Jacques Joly. C'est juste par rapport aux recommandations de Lazado qui demande à ce que le président de la République ordonne des enquêtes sur les pratiques de l'ANR et puis au numéro 1 de l'ANR de faire cesser les arrestations et détentions arbitraires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gaston Moussénéna?
Lazado, c'est une institution des droits de l'homme, il peut faire des recommandations au chef de l'État, ce n'est pas mauvais. Le problème ici, quand je voulais vous donner les détails, c'est parce que j'ai compris que Lazado n'a pas toutes les informations. Les gens viennent le voir, ce qu'ils considèrent comme arbitraire, ce n'est pas du tout arbitraire.
Donc vous n'avez rien à reprocher, vous, aux pratiques de l'ANR?
Je ne sais pas, de cette époque, en tout cas, non. Tous les cas qui ont été repris ici, j'étais prêt à vous les décrire et vous aurez compris. Quand je parle de quelqu'un qui annonce la mort du chef de l'État, monsieur, ce n'est pas seulement que moi je suis proche du chef de l'État, de son parti, mais je suis congolais. Vous savez que le chef de l'État, c'est le garant même de la nation. Annoncer sa mort, vous pensez que c'est sérieux de sa part? Pour quel objectif il l'a fait? C'est un homme qui doit être gardé quelque part. On doit faire des enquêtes pour qu'on sache pourquoi il l'a fait. C'est quelqu'un qui est à la RPA, par exemple. Chaque fois que nos avions militaires cherchent à décoller pour une action militaire, il informe les CNDP. Il informe.
Là, vous parlez déjà de Katou qui est.
Je vous donne des cas, des gens comme ça. Vous croyez que les Congolais seront contents de lui?
Merci.
Dites que les institutions sont déjà que peut-être certaines personnes pouvaient s'occuper d'eux.
Merci.
Mais l'ANR les protège.
Merci.
En les prenant.
Merci. On va boucler ce dossier ANR avec voilà. Jacques Joly rapidement.
Je voudrais d'abord dire que dans tout État, dans toute République, on a besoin des services de renseignement. Mais ces services d'enseignement doivent fonctionner dans le respect de la loi. C'est ce qu'on appelle la sécurité démocratique et légale. Je suis étonné et que le collègue dise que les services de renseignement sont là pour protéger le régime. Non, les services de renseignement sont des services républicains. Ils sont au service de la nation tout entière. Et personne, aucun régime, aucun pouvoir ne peut s'approprier, ne peut, n'est-ce pas, détourner leurs services, ces services à des dessins de protection, d'autoconservation du pouvoir. Ce sont justement ces pratiques anachroniques, n'est-ce pas, qui ont fait que nos services ne sont pas capables, n'est-ce pas, de savoir ce qui se passe ailleurs, ce qui se complote ailleurs pour protéger la nation. Et son service, n'est-ce pas, sont recroquevillés sur les BI, sur les bulletins d'information, sur la délation, sur la désinformation, sur la déstabilisation du chef en lui faisant peur à tout moment. Non, les services de renseignement doivent être réformés. Et ici, je voudrais dire que les OPJ de l'ANR doivent, en principe, comme dit mon collègue, dépendre du procureur. Or, lorsqu'on lit leur décret que j'ai cité, ils dépendent exclusivement de l'administrateur général de leur service, ce qui est une incohérence grave dans notre système. En principe, lorsque vous lisez la Constitution, il est dit que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles. Il n'y a que le pouvoir judiciaire. Si les services de renseignement apprennent que quelqu'un est en train de vouloir déstabiliser les renseignements, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est rapidement se saisir et les transférer devant les instances. C'est pas ce que le service le fait. Vous êtes journaliste ici. Savez-vous, et vous le savez, que le rédacteur du journal interprète a fait au moins plus de 4 mois dans le géant des services de renseignement ici, et tout le monde le recherchait. Les services de renseignement doivent faire leur travail, mais doivent faire ce travail dans le respect de la loi. Et ici, la loi, c'est le code de procédure pénale, le code de justice de procédure pénale militaire, et qui prévoit que l'OPJ ne peut garder quelqu'un que pendant 48 heures, au-delà, il faut le transférer. Il ne le font pas, et voilà pourquoi nous arrivons à cette anomalie qui crée un climat d'insécurité, de délation et d'accusation gratuite dans notre pays.
Merci beaucoup, Jacques Joly. On va poursuivre cette émission. Les forces congolaises en général respectent-elles les droits de l'homme? On en parle dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord, ce rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Les forces congolaises en général respectent-elles les droits de l'homme? La Voix de Sans Voix, une ONG de défense des droits de l'homme, reproche aux forces de l'ordre de commettre beaucoup de délits. Elle propose quelques pistes de solutions pour pouvoir les amener à respecter les droits de l'homme. Le directeur exécutif adjoint de l'ONG VSV, Voix de Sans Voix, Dolly Dopo, a été joint au téléphone par Tissim Poutou.
Nous pouvons reprocher aux forces de l'ordre de la République démocratique du Congo de beaucoup de dérives, de beaucoup de violations des droits de l'homme. Si nous avons observé une certaine accalmie à Kinshasa, mais en province, c'est la catastrophe, c'est vraiment le désarroi. La population est abandonnée à elle-même. Vous savez, par exemple, les militaires sont nourris sur le dos des populations en province. Les militaires se permettent de tout. Donc, je crois que la première solution, c'est d'abord, il faut que le gouvernement prenne en charge les militaires qui sont en province, tout comme ici à Kinshasa. C'est-à-dire, ils doivent bien payer les militaires et les policiers. Ensuite, nous devons demander à la justice de faire son travail.
Voilà, bien payer les militaires et les policiers, est-ce que cela peut être une solution pour aider les forces congolaises, les forces de l'ordre, à respecter les droits de l'homme, Gaston Moussemena? Ça, c'est la proposition de la Voix des Sans Voix.
Oui, j'aimerais revenir rapidement sur ce que j'appelais les institutions légalement établies qui constituent le régime. Nous sommes en démocratie. Quand un camp arrive au pouvoir, c'est ce camp qui forme le gouvernement et c'est ce camp-là qui constitue le régime.
Et donc, vous êtes du camp qui est au pouvoir. Hein,
absolument. Donc voilà, un peu, j'aimerais que mon collègue comprenne. J'ai parlé des institutions, le régime, les institutions, ça veut dire ça.
Ouais.
Il faut qu'on comprenne bien.
Ouais. Et c'est le régime, maintenant, là.
Je suivi attentivement ce que notre... ce que l'auditeur a dit, c'est une partie.
C'est les responsables de.
C'est une partie parce que nous-mêmes, quand nous allons en vacances parlementaires, nous nous sommes dit la plupart des problèmes, c'est aussi les mauvais paiements de nos éléments qui sont placés au niveau de la police et des différents services. Donc, le mauvais paiement est à la base de beaucoup de bévues. Mais il y a aussi une chose, c'est que mon collègue Julien a rappelé ici, c'est la réforme tout simplement. C'est-à-dire qu'il faudra que ces différentes institutions, ces différents services soient réformés avec des textes clairs, des attributions claires. On peut aussi résoudre le problème. Évidemment, la bonne gouvernance veut que les gens à qui vous donnez des assignations précises soient bien motivés. Si ces gens-là sont bien motivés et ils savent, je parle de texte, ils savent ce à quoi ils ont affaire, c'est-à-dire leurs attributions, je pense que c'est la plus résolue des problèmes. Donc, il ne faudrait pas seulement voir, comme notre collègue, l'aspect matériel ou l'aspect motivation, j'ajoute aussi l'aspect textuel, l'aspect des réformes, des textes qui régissent ces différents services.
Le responsable de la VSV parle aussi de la justice. Donc, la justice congolaise, vous pensez que il a un grand rôle à jouer dans l'amélioration du respect des droits de l'homme en général.
Absolument, vous avez suivi le chef de l'État quand il s'est adressé au Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat réunis en Congrès. Il a stigmatisé l'état de la justice et les efforts sont en train d'être faits. On avait mis un nouveau ministre de la justice juste pour cela et qui a commencé par des actions concrètes qui ont fait plaisir à l'ensemble de la population. Mais comme nous l'avons dit ici,
ça a été critiqué
par les magistrats parce que ce sont eux qui étaient la cible. Mais la population qui est un peu le miroir, qui voit les magistrats dans un miroir, ils considèrent que nos amis, nos frères magistrats n'arrivent pas à jouer convenablement leur rôle, mais il faudra qu'on arrange aussi leur situation. Donc je comprends, j'accepte qu'il y a beaucoup de problèmes encore au niveau de la justice et nous tous, nous sommes conscients de cela. Nous devons nous battre par des réformes pour qu'on améliore aussi les conditions de la justice.
Jacques Jolie, est-ce qu'on peut améliorer le respect des droits de l'homme en RDC par en améliorant la paye des militaires et policiers et aussi en mettant l'accent sur la justice?
C'est un élément important, la paye, surtout au niveau de militaires qui sont à la base, n'est-ce pas, qui sont au contact de la population. Il est étonnant que l'insécurité dans notre pays soit le fait de ceux-là même qui doivent protéger la population. Mais cette insécurité...
Mais c'est sûrement un problème de paye.
Non, c'est au-delà du problème de paye. Je crois que l'honorable Moussemène peut me confirmer. Il y a eu de territoires où on a demandé au commandement d'armée d'enlever, n'est-ce pas, une brigade, parce que cette brigade était en train de faire souffrir la population. Dernièrement encore, la brigade qui a décroché vers le Rutshuru était permis même de se saisir d'un mouami. C'est inadmissible, l'autorité coutumière. Donc, il y a un impératif de la réforme, de la philosophie de ces services de renseignement, qui doivent comprendre qu'ils sont des services au service du peuple et qu'ils ne peuvent pas, eux, être le bourreau du peuple.
Non, comme ça, il y a eu des viols massifs, par exemple, à Songomboyo, en Équateur.
Oui.
C'était pas les services de renseignement, c'était des militaires.
Mais donc, quand nous parlons de la réforme du service de renseignement, il faut saisir ça de manière globale, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement sans souci, tout, et même la justice. Donc, c'est ça la réforme. Et cette réforme doit être d'abord philosophique, c'est-à-dire qu'ils doivent comprendre que la sécurité civile est d'abord humaine.
Mais ça se fait comment ?
Par la formation, par le recrutement, et surtout par l'orientation de gouvernants eux-mêmes qui ne doivent pas instrumentaliser ces services comme outils de leur conservation du pouvoir pour traquer l'opposition, pour traquer les cas de dette. Donc, il y a une reconversion, je dirais même une mutation civilisationnelle qu'il faut faire à ce niveau-là. Et après cet effort de la philosophie, de la doctrine de l'armée, il faut maintenant arriver au format. Quels sont les services que nous devons avoir et combien? Et combien ça coûte? Et alors, à ce moment-là, on demandera à la nation de payer ces gens-là pour faire. Parce qu'aujourd'hui, vous rappelez ce qu'on dit au Kivu maintenant, qui sont les plus riches? Ce sont justement les autorités militaires et de l'enseignement. Et toute la troupe voit cela. Et ça crée un choc. Ce sont des choses qu'on a vécues dans ce pays lors de la Deuxième République. Malheureusement, on n'a pas tiré toutes les leçons. Il faut humaniser ces services. Il faut les rendre des services à la disposition de la population. On n'a pas fait. Nous avons une armée qui a encore les anachronismes du passé et surtout les services de renseignement. On n'a même pas encore touché à ces services. Nous ne savons pas de qui dépendent et à quoi ils servent. Voilà.
Nous avons parmi les réactions des auditeurs Nyanga, qui nous écrit Nyanga, et bienvenue, qui nous écrit depuis Kalemie au Katanga. Il pense que le droit de l'homme n'est pas respecté par le fait que la justice en RDC a déjà perdu son poids à cause de la corruption. Gaston Moussemela.
Je crois que nous parlons tous le même langage. Moi, j'ai eu même recours au discours du chef de l'État. Parce qu'il sait exiger clairement. Oui, je suis obligé parce que c'est lui le garant de la nation. Déjà, à son niveau, il a stigmatisé cela.
Oui, c'est la même famille politique.
Même quelqu'un de l'opposition, il vous dirait la même chose des chefs de l'État. A parlé en son temps. Donc, l'auditeur qui nous a suivis n'a pas tort. nous avons des problèmes sérieux au niveau de la justice à cause de la corruption. Mon frère Ndoli a parlé, on a parlé tous de la modique somme qu'on a, donc, du moins de la modicité de l'aide à l'aide, qui sert aussi à la base de cela. Donc il faut des réformes pour qu'on arrive à améliorer leurs conditions, parce qu'il ne faut pas seulement leur demander de bien travailler alors qu'il y a beaucoup de pesanteurs sur eux. Nous devons réfléchir, donc l'État doit réfléchir pour mettre les magistrats dans des conditions acceptables pour que maintenant on soit à mesure de bien les juger. Donc à ce jour, la corruption est en train de réduire la valeur même de ces hauts cadres du pays qui sont les garants même de la stabilité même de la vie en société.
Oui, Jacques Jéry, sur la corruption au niveau de la justice, ça c'est Nyanga Ngoy, bienvenue, qui nous le dit depuis l'Académie de Katanga.
La corruption est endémique dans ces pays, mais elle est surtout, n'est-ce pas, la corruption d'en haut. Il y a la corruption du petit agent de l'État qui recourt pour vivre, mais c'est la prédation au sommet de l'État que nous dénonçons au niveau de notre parti. Des contrats léonais qu'on ne s'est pas, réformés, parce que à ce niveau-là, il y a eu apparemment de corruption. On l'a dénoncé encore. J'ai suivi la plénière de l'Assemblée nationale, des contrats entre des sociétés dont on ne sent pas la nécessité. Ils ont discuté du contrat Mat Énergie, dont on ne comprend pas tous les problèmes de passeport diplomatique. Ça sent la corruption et on ne sent pas une volonté d'extirper, d'éradiquer ces mal qui commence d'abord par le sommet. Rappelez-vous que le poisson pourrit par la tête.
Et c'est qui la tête?
Mais c'est d'abord nous, les dirigeants, l'équipe actuelle qui doit s'engager à lutter fermement contre la corruption. Aujourd'hui, le Congolais voit à tout ça, alors que les sacs de ciment montent, mais les constructions de toutes les couleurs montent. Alors que la population souffre.
D'où vient donc il y a un problème de justice, de corruption,
de justice du tributaire, des prédations, de malversations qui ne sont pas sanctionnées.
Donc la justice doit sanctionner.
Absolument, ouais. Absolument. Ouais. Je voudrais parler, et je vais me terminer, qui concerne l'armée. Vous savez qu'on a fait des contrôles biométriques et aujourd'hui, on a remarqué que plus ou moins la moitié des militaires sont des fictifs. J'ai suivi encore le général Numbi dernièrement
au niveau de la police.
Il a arrêté pratiquement tous les responsables des services des ressources humaines qui détournent, n'est-ce pas, l'argent avec des listes effectives. Mais on voudrait voir tout cela et qu'il ne reste pas simplement des slogans et que nous sachions depuis quand on détourne et qui détourne et que ces personnes-là soient sanctionnées pour que cet argent-là puisse servir réellement à améliorer le sort du militaire, du policier et de l'agent des services de sécurité. L'agent des services de sécurité congolais, si vous le voyez, il vit comme un clochard. Et comment voulez-vous que cet homme-là, qui n'a pas un bon salaire, qui n'a pas de fonds de recherche, puisse, n'est-ce pas, savoir ce qui se fait au Rwanda pour nous attaquer ou en Tanzanie?
Merci beaucoup. On va poursuivre toujours dans la série des réactions des auditeurs avec Steven, qui nous écrit depuis Kindu Manima. Le droit de l'homme n'est pas respecté en RDC, car même ceux qui devaient faire respecter la loi commettent des exactions et ne sont pas inquiétés. Gaston Moussemena, c'est là un problème de l'impunité.
Oui, je crois que nous ne pouvons pas nous voiler la face. Il y a des problèmes sérieux, nous l'avons tous dit jusqu'à ces jours. Il y a des problèmes sérieux et même nos auditeurs sont en train de les stigmatiser. Je dirais, comme mon collègue Ndoli est en train d'affirmer avec moi, que les améliorations ont été réellement faites. Parce qu'il cite le cas de John Numbi, qui arrive à dénicher plus de 8000 fictifs. Il parle du ministre de la Défense. Tout ça, ce sont des efforts qui ont été faits aujourd'hui et qui peut-être auraient pu être faits déjà hier. Qui n'ont pas été faits hier, mais aujourd'hui, ces efforts ont été faits. C'est à mettre dans l'actif du gouvernement. Et ces efforts, comme vous l'avez dit, doivent être poursuivi pour arriver à ce que vous dites là. Vous parlez de l'impunité.
Ouais. C'est pas moi, c'est l'auditeur.
Même pas toi, c'est pour tous, nous le disons. Moi, je suis un élu du peuple, je ne peux pas m'en cacher. Nous le disons, il y a des cas où nous n'avons pas remarqué des sanctions sévères. mais on doit réunir tous les éléments, nous dit-on, avant de sanctionner un responsable. On ne sanctionne pas un responsable comme tout le monde, il faut avoir tous les éléments, et là, les enquêtes sont en train d'être faites, on découvre l'effectif, et lui-même, Johnny l'a dit, qu'il a, John Numbia fait arrêter presque tous les staffs. Voilà les efforts, voilà comment on est en train de lutter contre l'impunité progressivement. Peut-être que ça vient timidement, je comprends l'auditeur, et je comprends tous ceux qui nous suivent, mais je vous rassure que les chefs de l'État avaient le courage de dire que les portes de prison vont être largement ouvertes pour qu'on commande déjà. Et beaucoup de gens ont toujours dit qu'on n'a jamais vu des gens là-dedans. Je crois que les efforts sont en train d'être faits avec des cas comme ça, en réunissant des preuves pour que cesse désormais l'impunité. Ça va cesser comment? Parce que aujourd'hui, avec les élections, nous ne fermons plus la bouche. Même si moi je suis de la majorité, même si je lis les MLC, tous les députés, toute la représentation nationale et provinciale est en train de parler, de dénoncer tous les cas qu'on voit, parce que ça touche à notre base. Nous nous rentrerons en 2011. En tout cas, moi, je rentrerai en 2011.
Avec espoir d'être
réélu. Pour que je garde cet espoir, il faut que j'arrange, il faut que je balaye, il faut que je pousse les dirigeants, les chefs de l'État en particulier, à balayer autour de lui, loin de lui, à balayer partout où nous voyons qu'il y a de la saleté. Donc, vous comprenez. Donc, ce sont là les efforts que nous sommes en train de faire pour que ça l'impunité, parce que notre avenir politique en dépend.
Sinon, vous ne serez plus réélu.
En tout cas, moi, je crois comme ça. Nous nous battons autour du chef de l'État pour qu'il comprenne cela, pour que nous tous, nous voyons comment continuer avec ses pouvoirs, comment continuer à résoudre les problèmes de la population, à tout faire pour le bien-être de la population. Donc, l'impunité, c'est quelque chose qui nous dérange. Nous sommes en train de voir comment, progressivement, en réunissant des preuves, mettre fin à l'impunité. Et nous y croyons.
Comment mettre fin à l'impunité, Jacques Jolie?
L'impunité ne peut être vaincue que si on passe du discours à la parole. Ce que nous reprochons à nos amis de la majorité, c'est d'être très fort en effet d'annonce. On annonce qu'on a découvert et finalement on fait du surplace. Pendant 2 ans, on a vu un gouvernement immobile, incapable, n'est-ce pas, d'attaquer des dossiers sérieux comme celui des contrats léonais. On ne sait pas finalement où nous en sommes. Est-ce qu'on a pu résoudre les cas de ces contrats qui, n'est-ce pas, préjudicient gravement ces pays qui vivent avec un budget de moins d'un milliard, alors que notre voisin Angola fait un budget de 80 milliards. C'est vrai que nous ne sommes pas un pays pétrolier.
Ouais, mais donc, quel lien on peut faire, Jacques Delis, la corruption et les droits de l'homme, hein,
C'est d'abord un problème de volonté politique. C'est un problème de vision, de gouvernance. On ne combat pas ces éléments-là par le discours, par des actes, par des réformes. C'est que nous reprochons à ces gouvernements. J'espère que celui qui va venir, mais que nous croyons, nous attendons toujours, va se démarquer de la première équipe qui s'est, n'est-ce pas, caractérisée par l'immobilisme. Nous comprenons, lorsque nous avons suivi les patriarches, que c'est l'âge, n'est-ce pas, qui l'a empêché. Mais nous espérons que celui qui vient, qui est moins, qui plus jeune, qui peut plus courir. Mais le problème n'est pas même le problème d'âge. Le problème, c'est des volontés, des visions. Nous ne voyons aucune vision dans ce gouvernement. C'est les...
Attendez d'abord de le voir.
En voyant ce qui a été fait pendant 2 ans, où eux-mêmes ont reconnu qu'ils ont perdu du temps, et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, et je crois que Mme Moussemina va me contredire, les députés de l'Est disent que le choix fait par les chefs de la majorité n'agréent pas. Et c'était plus ou moins 150 députés, et ce n'est pas rien.
Est-ce que vous voulez dire que le MLC a rejoint ces députés de l'Est?
Non, le MLC a dit que le problème ne se résout pas par les changements du chauffeur. Il faut attaquer le problème par le fond.
Voilà. On va terminer.
Et là, on ne touche pas le fond. Oui. On est dans le bricolage et des
affaires. Et pour terminer, parce que nous parlons droit de l'homme, il y a Nyembo Rachidi de Kalemie encore au Katanga. Il dit que le Congo manque la paix parce que ceux qui violent les droits de l'homme sont impunis et libres. Par contre, les innocents qui veulent chercher la paix sont poursuivis et incarcérés. On va terminer par vous, Gaston Moussemena, très rapidement, en 30 secondes, s'il vous plaît.
Bien, je crois que c'est un point de vue de l'auditeur, mais le problème de la paix au Congo, ce n'est pas à cause de cela. il faut bien avoir la maîtrise de ce dossier des guerres à l'Est pour en parler. Vous devez savoir que...
Mais les innocents qui sont incarcérés, donc non-respect des droits de l'homme.
Je vous ai dit depuis le début que certaines personnes parlent des cas dont ils n'ont pas la maîtrise. Je vous rassure que tous les cas des arrestations ont leur motif. J'étais prêt pour le cas signalé par l'Azado de vous dire au cas par cas, mais je sais aussi qu'il y a quand même un changement de mentalité dans notre pays depuis la mise en place des institutions. Les gens sont arrêtés pour des raisons exactes.
Merci.
La situation de la paix. La situation de la paix dans notre pays a des ramifications extérieures.
Merci beaucoup.
Ce n'est pas un problème de la
situation. Merci, M. Ménard. C'est la fin de cette émission. S'il y a cela a été à la mise en œuvre, Guy Maté, pardon, à la réalisation, bonsoir.